Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Rendez-vous Tech spécial estival, spécial vacances, où on va parler de trucs sympathiques, pas d'actualité, pas de dépression mondiale des réseaux sociaux qui nous transforment tous en Asie, mais des trucs sympas avec aujourd'hui des développeurs. Comme vous le savez, le Rendez-vous Tech, généralement, c'est l'actu. Bon, je dis que c'est déprimant, mais c'est aussi souvent intéressant. Faut quand même écouter les épisodes classiques. Mais là, on fait un épisode spécial où on va parler de développement et plus que de développement, de la vie des développeurs, le quotidien de ces travailleurs de l'ombre que vous ne connaissez pas, mais qui rendent possible tout ce que vous faites sur tous vos objets informatiques. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir d'une part Christophe Kamikas. Comment ça va, Christophe ?
Eh bien, bonjour, ça va très bien. Merci, Patrick. Content d'être là.
D'autre part, David Catu. Comment ça va, David ?
Bonjour tout le monde. Ben, ça va super bien aussi. Ravi d'être là.
Tu me disais, tu as un accent du sud-ouest, mais tu es sur la côte ouest des États-Unis. Donc ouais, effectivement, les gens te regardent bizarrement quand tu te mets à parler ou pas du tout ?
J'ai pas l'accent en anglais, enfin j'ai pas d'accent anglais non plus, j'ai un accent moisi français et quand je parle en français, j'ai un accent du sud-ouest. Donc on me regarde toujours bizarrement. En
fait. Très bien. Bon, alors, comme je le disais, dans cette émission, on va essayer de parler non pas du développement, genre vous apprendre à développer, l'importance du développement. Non, moi ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on parle du quotidien des développeurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être développeur au-delà des programmes qu'on voit arriver sur nos machines et nos appareils et nos apps de manière un petit peu presque magique, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière et ce que font les développeurs au quotidien. Est-ce que c'est la matrice qui s'affiche devant leurs yeux, ils se mettent à taper et tout à coup, paf, t'appuies sur Enter et il y a un truc merveilleux qui arrive à l'écran, ou qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Il y a plein de gens qui l'ignorent. Et à vrai dire, même si moi j'ai une toute petite formation de développeur à l'époque, je pense que j'ignore ce que ça veut dire aujourd'hui vraiment d'avoir les mains dans le cambouis. Avant de se lancer, je vous propose que vous vous présentiez pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous êtes développeurs tous les deux, mais qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre historique en quelques mots ? Commençons peut-être par Christophe.
Très bien. Alors oui, moi je suis développeur depuis longtemps en fait. J'ai commencé en fait avec le plan informatique pour tous dans les années 80, qui avait eu la chance de nous pourvoir à l'école de TO770, super ordinateur français de chez Thomson. Donc j'ai découvert l'informatique
avec les petites touches chewing-gum là, horribles, qui te restaient dans les doigts.
Exactement. Uh-huh. Et j'ai découvert l'informatique, mais plus d'un côté programmation, puisque c'était très rapidement dès l'introduction avec du BASIC. Et mes premiers pas ont été dans l'écriture en BASIC de, je crois que c'était un casse-brique à l'époque, ou un jeu de serpent. Enfin, c'est un de ces deux trucs. Et de suite, ça m'a énormément plu. Et j'ai découvert mon amour pour la programmation au sens large et à l'informatique en particulier. Et après, ça a continué, ça m'a suivi. Donc j'ai eu d'autres ordinateurs, des Z80, Atari ST. Donc je suis dans l'autre clan de David, et ce qui m'a plu en fait là-dedans,
tu parles du ZX80 Spectrum, c'est ça
exactement,
tout à fait, très bien, ok,
exactement. Tout ça c'est par l'intermédiaire de mon père aussi, qui était alors plutôt lui dans l'électronique mais qui touchait un peu l'informatique, qui m'a pas mal accompagné dans cette démarche-là. Et après, du coup, quand j'ai compris mon goût pour ça, j'ai suivi des études qui m'ont permis d'avoir un diplôme qui validait quelque part.
Ce que tu savais déjà faire, en fait.
Oui, avec un vrai diplôme officiel d'État, voilà, d'ingénieur en informatique. Voilà, mais après, ça a continué, même en étant à l'école, faire des petits développements de jeux à droite à gauche, faire des sites en Minitel, commencer à faire des sites web, etc. Voilà, globalement, le parcours qui m'a amené à être développeur, qui je continue aujourd'hui, puisqu'en fait, pour moi, le parcours, l'apprentissage est continu sur ce métier-là.
Ça, je crois que c'est un thème qui va être récurrent dans nos discussions. L'apprentissage vraiment ne s'arrête jamais dans un média qui bouge autant que l'informatique et que le développement. C'est vraiment, il faut continuellement se former. Avant de continuer, tu peux nous dire deux mots sur ce que tu fais, ce que tu as fait, enfin, ton parcours professionnel. Tu bosses dans quoi maintenant ?
Alors, mon parcours professionnel, donc après l'école, j'ai rejoint, alors ça fait 15 ans que je suis sur le marché de l'emploi, enfin en professionnel, on va dire, que je suis sorti de l'école, un petit peu plus, et j'ai rejoint en fait une petite structure qui était une start-up avant la mode, en fait, comme on l'a, avant que ce soit la Start-up Nation, où on faisait du développement mobile. Alors, il faut se rappeler qu'il y a plus de 15 ans, le développement mobile, c'était des pocket PC avec du Windows CE dessus, sur lesquels on travaillait, donc c'est pas la même chose que les smartphones qu'on a actuellement.
Et ça va rappeler des souvenirs et peut-être causer des crises d'épilepsie chez certains développeurs qui nous écoutent, développeurs auditeurs, je pense. Mais vas-y, continue. Voilà,
mais en fait, on retrouve les mêmes problématiques. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est cyclique, en fait. On retrouve des choses comme ça. Et la volonté, c'était de développer des applis mobiles pour les gens qui sont sur les chantiers, pour le BTP. Donc, autant te dire, le grand écart entre la technologie et les utilisateurs qui sont vraiment à 10 000 lieues de toucher l'informatique. Voilà, et après, j'ai poursuivi ça plutôt côté édition de logiciels, donc des entreprises qui vont créer des solutions autour de la gestion. Donc, solutions de gestion pour les entreprises, au sens très large. Voilà, j'ai évolué dans différentes entreprises autour de ça. Voilà.
D'accord, très bien. Donc vraiment le développement au sens, je ne sais pas, le développement des vrais, quoi. Le développement des barbus. Ouais. David, même si toi, tu n'es pas barbu en même temps, Christophe, je crois que tu ne l'es toujours pas, non ? Si, peut-être.
Bref. Ah, un petit peu.
Un petit peu. David, quel est ton parcours en quelques mots ?
Il ressemble un petit peu, en fait. J'ai commencé dans les années 80 aussi avec un Amstrad CPC 464 à cassette. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Donc, c'était un écran noir et vert. C'était à des cassettes, donc tu chargeais pendant 30 minutes. Donc aujourd'hui, tu vois, quand on parle de la PlayStation 4 qui charge lentement, ça me fait rigoler. Après, j'ai eu un Atari pendant...
Excuse-moi, je vais juste... Deux choses. D'abord, est-ce que tu peux, en fait, baisser le volume un tout petit peu ? Tu sonnes un peu fort. Je t'ai demandé de le monter juste avant qu'on commence à enregistrer. Maintenant, je te demande de le baisser, désolé.
Baisser, pas de souci.
Et ensuite, moi, j'ai eu un Atari... J'ai eu un Amstrad CPC 664. Moi, c'était le truc de bourgeois. J'avais un lecteur de disquette avec mon Amstrad. Attention. Donc, on se retrouve un petit peu. Ça rappellera, ça aussi, des souvenirs à nombre de nos auditeurs, je pense.
Je détestais tous ceux qui avaient des disquettes, ça allait trop
bien
vite.
Bien sûr.
Et est-ce que c'est assez le
oui,
niveau du volume
ira. Ça ira.
D'accord. Ok. Et donc, après ça, j'ai eu un Atari ST pendant 2 mois, jusqu'à ce qu'un ami à moi me montre un Amiga. Et là, j'ai vu la lumière, je me suis dit que j'étais perdu au fond de ma grotte. Donc, j'ai jeté l'Atari, je n'ai même pas osé le vendre, je voulais insulter personne. Et j'ai gardé mon Amiga pendant très, très longtemps. J'ai fait de la démo scène dessus, j'ai développé un assembleur dessus, j'ai appris à développer en fait, directement dessus. J'ai fait des coding parties avec et ça m'a vraiment donné le goût de l'image.
C'était un Amiga 500 ou...
Alors voilà, c'était un 500 plus.
Ah, pas mal. Moi, j'avais un 500, donc tu me bats sur le...
Il y avait un petit peu plus de RAM. Enfin bon, on parle de 1 méga de RAM. C'était quelque chose quand même. Et après, j'ai essayé d'économiser pour m'acheter un Amiga 1002, mais je n'ai pas réussi. L'adolescence aidant, j'avais d'autres priorités en simultané, ce qui fait que je n'ai pas tout pu mettre dans l'ordinateur.
Je peux comprendre.
Et suite à ça, je suis arrivé sur PC sur 386 via 3D Studio Max, qui me rendait fou. Je trouvais ça incroyable qu'on puisse faire de la synthèse de cette qualité-là. Il faut voir ce qu'on faisait à l'époque quand même. Avec un DX, il y avait un coprocesseur mathématique. J'étais en extase. Après, j'ai eu 486 et puis après, j'ai pu lâcher le PC jusqu'à encore aujourd'hui. Au niveau de mes études, jusqu'à très tard, je voulais faire des mathématiques qui s'associaient pas mal avec mon envie de faire de la synthèse, en fait. Et hélas, les mathématiques en France, là où j'étais moi, du côté de Pau, c'était des mathématiques qui étaient très théoriques et pas du tout appliquées. Donc, j'ai bifurqué, j'ai fait un DESS d'informatique après. Et j'ai fondé une boîte en 99 de développement autour des technologies Microsoft. Et en parallèle de cette boîte-là, j'ai également fondé une boîte qui vendait un moteur 3D qui s'appelait Nova à l'époque, que j'avais créé, qu'on a vendu à des boîtes genre Airbus et tout ça pour faire de la simulation. On vous savait des archéologues aussi, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être au pays des rêves. En 2011 ou 2012, je ne me souviens plus trop, j'ai tout vendu pour monter chez Microsoft France, où je suis devenu évangéliste, donc là, complètement aucun rapport, où j'ai en fait partagé ma passion de développement avec les autres sur les techno MS. Et Et depuis maintenant 3 ans, j'ai rejoint, depuis 6 ans, je suis aux États-Unis, et depuis 3 ans, on a fondé une équipe, l'équipe Babylon.js que je dirige. On est une douzaine de développeurs et on fait un moteur 3D, encore une fois, mais cette fois-ci pour le web. Et en fait, aujourd'hui, tous les assets 3D de chez Microsoft qui tournent sur le web et bientôt même en natif utilisent mon moteur 3D. Donc PowerPoint, Dynamics, Visio, OneDrive, Teams, tous ces outils-là, quand ils affichent de la 3D, utilisent le moteur 3D que je construis.
Super. Et ben là aussi, on est effectivement, on a affaire à un vrai. Et j'apprécie le voyage dans la mémoire jusqu'à l'enfance. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de développeurs, tu parlais du plan informatique pour tous, Christophe, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça vient de là, en fait. Il y a une véritable... je pense qu'on peut parfois se moquer des initiatives du gouvernement ou de dire « Ah, mais à quoi ça sert ? C'est un petit peu ridicule, c'est déconnecté de la réalité de tel ou tel truc. » Mais parfois, ça peut avoir des effets vraiment intéressants et sur le long terme. Et moi aussi, je me souviens de ces Thomson TO7 qu'on avait à l'école, même s'ils étaient un petit peu pourris, bah, ça a amené, peut-être que ça a contribué à amener quelque chose. Donc. Bref.
Avec des serveurs Goupil, je ne sais pas si vous en souvenez. Il y avait les MO5 et les TO7, et les serveurs dans les salles, c'était des Goupil.
Carrément.
on se rappelle de bulles, de tous ces trucs-là à l'époque. Ouais. Hein. Écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet après cette longue introduction. Je vais vous poser la question vraiment brute. Le travail d'un développeur au quotidien, genre vous arrivez les jours, peut-être que c'est plus le cas tout le temps pour vous aujourd'hui, mais quand vous allez vous dire bah, maintenant je vais coder, je vais faire du développement, vous arrivez au bureau. Et vous faites quoi ? Genre, on se doute bien que vous vous asseyez au bureau et que vous avez un clavier devant vous, un écran devant vos yeux. Mais vous faites quoi exactement au quotidien ? Et à vrai dire, je dis, vous vous mettez à taper, ça se trouve, avant ça, il y a 1000 réunions et je ne sais pas. Quotidien du développeur, peut-être commençons par Christophe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors déjà, je rectifie, plusieurs écrans, c'est indispensable. Hein. Il n'y a pas qu'un seul, voire plusieurs claviers.
Tu sais quoi, je vais te poser la question du coup. Pourquoi plusieurs écrans et pourquoi plusieurs claviers ?
Non, alors j'ai qu'un seul clavier. Par contre, effectivement, plusieurs écrans, ça peut être sympa. Alors ça va dépendre de ce que tu fais comme développement, mais souvent, il y en a un dans lequel tu vas voir ton environnement de développement avec le langage dans lequel tu vas intervenir, donc ton éditeur de code globalement. Et un autre écran, tu vas potentiellement avoir le résultat de ce que tu es en train de faire et du coup, tu vas pouvoir voir en live ce que tu es en train de faire. Alors ça s'applique au développement web, tu vas voir le site web affiché ou la page web à côté et ton éditeur de code à un endroit. Et éventuellement, un troisième, donc ça, moi, j'aime bien, un troisième sur lequel tu vas plutôt avoir tous tes outils complémentaires du genre les lignes de commande, les connexions serveurs, tous ces trucs-là. Donc moi j'ai ça et j'en ai un en vertical en fait également si on veut rentrer dans le détail, qui est super pratique quand tu fais du développement web pour aller inspecter comment la page se comporte dans le navigateur. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire comment la page se comporte dans le navigateur ? Et à vrai dire, je pense que ça s'applique aux applications aussi. Tu écris des lignes de code. Alors, pour ceux qui ne savent pas, des lignes de code, c'est vraiment du texte que tu tapes avec des commandes un petit peu arcaniques. C'est une sorte de... Bah, comme c'est dans le nom, c'est du code. Tu codes des commandes. Si une fois que tu as terminé une première version ou une partie de ton code, tu compiles le truc et puis tu vois ce que ça donne dans l'application. S'il y a un truc qui ne marche pas, tu fais quoi ?
Alors, on débug, ça c'est le terme technique, mais en fait, il y a on va dire, deux grandes catégories de langage. Alors, déjà pour moi, le métier de développeur, c'est tu murmures à l'oreille des machines pour leur faire des choses que tu as envie de leur faire. Globalement, c'est ça, si je résume, enfin pour moi. Et en fait, quand tu codes, en fait, ça va dépendre des différents langages, mais tu as en gros deux grandes familles de langages. Tu as les langages qui sont plutôt interprétés. Ça veut dire que tu écris quelque chose et en fait, naturellement, la machine ou l'environnement d'exécution, comme le navigateur, va pouvoir l'interpréter directement. Donc ça, c'est par exemple le HTML, donc les pages web ou le JavaScript qui les anime. Tu peux l'écrire directement et le navigateur va l'interpréter directement, sans avoir à exécuter de choses complémentaires comme de la compilation, etc. Par contre, tu as d'autres langages sur lesquels tu vas écrire dans le langage, donc dans la syntaxe. On parle de grammaire, on parle de mots-clés. Et après, ce code-là que tu as écrit, tu vas lancer un outil qui va le compiler, donc qui va le traduire et l'interpréter dans une autre forme. Et en général, ça le traduit dans une autre forme, soit une forme intermédiaire qui va être interprétée par une autre couche logicielle, soit directement dans ce qu'on appelle le langage machine, l'assembleur. Ça, c'est vrai pour le C++. Et là, c'est interprété directement au plus bas niveau, au plus près de la machine.
Et pour donc, les gens qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, un langage qui nécessite de passer par l'assembleur, il va produire donc un exécutable, un fichier qui va pouvoir être lu par l'ordinateur, mais au moment de la compilation, donc de la traduction du langage, par exemple C++ en langage machine, il va l'interpréter en langage machine pour, pas l'interpréter, mais le compiler en langage machine, pour un type de processeur qui va comprendre un certain type d'instruction. Et c'est là qu'il y a une différence entre les processeurs généralement Intel, donc les processeurs x86, et les processeurs ARM, qui sont les processeurs qui équipent la plupart des mobiles. Et un programme qui a été compilé pour un processeur Intel ne peut pas être compris par un processeur d'un autre type, un processeur ARM. Et ça peut, enfin, si tu écris tes programmes pour des machines sous processeur Intel, ça peut être compliqué de les faire exécuter par d'autres types de processeurs. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas facile de faire passer un programme Windows à un mobile, en plus de mille autres raisons qui font que c'est compliqué. Mais
oui, c'est marrant que tu cites ça parce qu'on a évolué. Alors j'ai fait beaucoup de C++, donc on est dans cette catégorie-là où on développe pour cibler effectivement un processeur. Et en jonglant sur des processeurs mobiles de l'époque, donc effectivement de l'ARM ou du MIPS, c'était même à l'époque. Et on a vécu également la transition entre les architectures 32 bits et 64 bits. Et là, tu commençais déjà aussi à avoir des différences de comportement. Donc on est vraiment dans le sujet effectivement de la compilation adaptée vraiment pour une architecture de processeur.
Tu peux nous interrompre, David, hein, quand tu veux, mais vous me dites des choses qui me lancent sur d'autres questions.
Il y avait juste un sujet.
Vas-y.
Il y avait juste un sujet qui est important, c'est que quand tu précises sur le web, c'est pas compilé. En fait, c'est pas exact, puisque le navigateur va le compiler pour nous, en fait. Ce qui se passe, c'est que où qu'on soit, tout le temps, constamment, il n'y a qu'une seule chose qui s'exécute, quel que soit l'ordinateur, même sur votre montre, votre calculatrice, c'est toujours du code machine, du langage de très bas niveau. Et en fait, le développeur se place à une certaine strate de cette histoire. Quand on est en C++, on est relativement bas et on va quasiment générer le code machine. Quand on fait du web, en fait, on va faire un langage intermédiaire du JavaScript qui va être lui-même compilé par le navigateur en langage machine, qui va lui-même être exécuté par la machine locale, en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a toujours eu un développeur ou une développeuse qui ont construit le langage machine qui va bien, tout le temps, constamment. Après, on se positionne à différentes hauteurs, en fait, de cette histoire.
On sent l'artisan amoureux de son travail qui veut qu'on soit bien précis sur les choses qu'on dit.
Non, mais il a bien raison, il explique très bien.
C'était parfait. Est-ce que vous pouviez me dire, concrètement, à donner un exemple, si on passe de 32 à 64 bits ou de 16 à 32 bits, donc, c'est des manières d'adresser la mémoire différentes, mais ça ne parle pas forcément aux auditeurs. Qu'est-ce que ça change dans la programmation, en fait ? Pourquoi c'est tellement compliqué pour un programmeur et un programme de passer de 16 à 32 bits ? Qu'est-ce que ça change pour vous dans la manière dont vous appréhendez vos programmes ? Je ne sais pas si vous avez des exemples, mais...
Aujourd'hui, quasiment plus rien, en fait.
Non, bien sûr, je veux dire, quand aujourd'hui, c'est plus vraiment, on n'a plus vraiment ce type de transition, mais je veux dire, par le passé, quand on a eu ce type de transition, ça veut dire quoi ?
En fait, quand on était, par exemple, sur la NES, qui était une console 8 bits, en fait, on avait le droit d'accéder donc à deux exposants 8 octets à la fois, en fait. C'était vraiment la taille de ce que l'on pouvait loader. Et en fait, quand on est passé à 16 bits, techniquement, ça n'a pas changé grand-chose. On a juste eu plus de mémoire, en fait. Ce qui est amusant, c'est que ça n'a pas changé que ça, en fait. Quand on est passé des ordinateurs 8 à 16 bits, il n'y a pas que la taille de l'adressage qui a changé. Tout le jeu d'instructions a changé, en fait, ou quasiment. Et toi qui as connu l'Amiga 500, par exemple, quand on était passé au 1200, c'était un processeur du coup qui était 32 bits, le 1200, et l'Amiga était un 1632, on va dire, entre guillemets. Et du coup, le jeu d'instruction a changé, il fallait apprendre un nouveau langage. C'est ça qui change au final, en fait.
Donc, ce n'est pas de manière intrinsèque le 8 ou 32 bits qui change les choses, c'est que quand on passe d'une génération à l'autre, ben, le processeur évolue et on essaye de faire les choses mieux et différemment, peut-être de profiter des capacités qu'offre un adressage mémoire plus vaste. Mais du coup, je transfère ma question. de quelle manière est-ce que changent les jeux d'instructions ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur un 16 bits ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire sur un processeur 32 bits, généralement, hein, donnez-moi juste un exemple, qu'on ne pouvait pas faire sur un 16 bits qui fait que ça change tout ?
Alors sur Amiga, si je me souviens bien, et là ça remonte très très loin, donc je m'excuse par avance si jamais je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais il y avait une instruction qui s'appelait Move, et il y avait la même sur la version 32 bits qui s'appelait Move Fast. Elle bougeait juste les octets plus vite. Donc c'est ce genre de choses-là qui changeait en fait.
Mais ça semblerait faciliter le passage de l'une à l'autre, alors que les programmes généralement...
Mais il fallait le faire.
Ouais, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles, c'est ça qui, il faut que tu ailles à la main, aller voir tous les endroits où tu as écrit move dans ton code et transformer pour que ça prenne avantage des nouvelles instructions, écrire move fast à la place de move.
Exactement. Pour te résumer le truc, aujourd'hui, quand tu as Intel qui sort un nouveau processeur, il reste compatible, mais il y a quand même des nouvelles instructions qui peuvent être ajoutées, et du coup, il faut que les compilateurs, et comme disait tout à l'heure Christophe, par exemple, ceux qui font du C++, ils en tirent parti, tu vois. Et s'ils ne le font pas, ils ne vont pas aller beaucoup plus vite sur le nouveau processeur parce qu'ils vont rester sur l'ancien jeu de données. Ils doivent donc faire l'effort d'aller chercher les nouveautés, en fait.
Est-ce que ça veut dire que du coup les processeurs Intel qui sont donc architecture x86 gardent toutes les données de toute l'histoire des processeurs ou est-ce qu'à un moment quand ils disent bon les trucs qui ont plus de 10 ans maintenant ils fonctionneront plus donc faites attention à ne pas utiliser des programmes qui ont plus de 10 ans, je sais que c'est plus que 10 ans mais est-ce qu'ils gardent tout ou est-ce qu'ils en enlèvent au bout d'un moment?
Ah, tu sais, l'architecture x86, elle est codifiée et stable. Je pense pas que... Si tu fais le choix d'utiliser... Alors, par exemple, dans l'exemple MMX, je ne sais pas si vous vous souvenez du sorti de MMX sur PC. Mm-hmm. C'est en même temps qu'on a eu les cartes 3DFX. Ça a été un peu la révolution dans le monde de la 3D. Alors, d'abord, il y a eu MMX, en fait, où en fait, c'était un nouveau jeu d'instructions. Et du coup, on garde toujours les anciennes et on ajoute un nouveau jeu. Après, il y a eu SSE, SSE2, etc. C'est toujours un nouveau set d'instructions qui est de plus en plus... Enfin, qui fait des choses mieux et plus vite, mais il n'enlève jamais le précédent. Ils ont une vraie contrainte sur, excusez-moi le terme anglais, de backward compatibility pour garantir que bien, ton application qui a été développée en 1998, elle fonctionne toujours sur Windows 10 aujourd'hui.
Est-ce que du coup, c'est pour vous, quel est le plus gros cauchemar d'un développeur ? C'est de devoir aller travailler sur des applications qui ont été écrites il y a 15 ans dont plus personne ne sait de quoi il en retourne. Je sais qu'on avait des histoires récemment sur des développeurs qui avaient appris à coder en COBOL, qui est un très vieux langage, qui avaient été sortis de retraite pour venir corriger des problèmes sur des systèmes type des distributeurs de billets ou des systèmes de banque qui sont hyper vieux. Et que plus personne ne savait en fait gérer parce qu'ils étaient tellement vieux. Est-ce que c'est l'angoisse quand on vous dit bon, on va devoir travailler sur un programme qui a 20 ans
Pour l'histoire des COBOL, c'est qu'ils voulaient corriger le bug de l'an 2000. Mmh. Et la majorité des systèmes bancaires étaient codés en COBOL. Donc, si vous voulez changer le code, il fallait trouver des gens qui parlaient ce langage-là. C'est comme si c'était codé en Klingon et qu'il fallait apprendre le Klingon pour aller changer le truc, tu vois. Et tout le monde ne parle pas Klingon, tu vois. On parle tous terrestre ou vulcain. C'était ça surtout qui était compliqué dans le truc. Et ça a été vraiment à la foire à la saucisse pour trouver des développeurs, les sortir de leur tête, les pauvres. Moi, je suis un peu... Oui, j'aime pas trop revenir sur d'anciens codes, même le mien, parce que la plupart du temps, je me juge moi-même et je trouve que j'étais juste très, très mauvais. J'ai cette tendance, alors je ne veux pas parler pour Christophe là-dessus, mais à regarder l'ancien code toujours un peu à l'aune de la nouveauté des nouvelles technologies qu'on a apprises récemment, parce qu'on apprend tout le temps, ça bouge tout le temps, c'est incroyable. Il y a plein de mèmes sur Internet à la vitesse à laquelle les langages, et notamment JavaScript, évoluent. Et quand tu reviens sur un code qui a même 5 ans, tu dis mais non, mais qu'est-ce que j'étais con, c'est pas possible. Mais
c'est intéressant ça, parce que j'imagine que la plupart des auditeurs qui nous écoutent se disent, bah, le code tu l'écris, il est fait. C'est pas, il faut trouver la manière dont ça marche, mais on ne se doute pas forcément du fait qu'il y a une manière élégante d'écrire un programme et que différents programmeurs vont écrire les choses de manière différente. Est-ce que c'est, je ne sais pas, comme de la musique ou comme des mathématiques ou du... Ouais, vous considérez ça comme...
Je suis content que tu viennes sur ce sujet-là. J'ai récemment écrit un article pour, je crois que c'est Éducation nationale, sur Deviens développeur ou deviensdev.net.
Deviens.dev, c'est vrai, je crois.
Ouais, voilà, deviens.dev, exactement. Et en fait, ma vision, et j'imagine que Christophe la partage, c'est nous sommes des artistes, en fait. Moi, depuis tout petit, j'adorais dessiner. Je dessine vraiment très mal, c'est immonde. Ma fille de 4 ans dessine mieux que moi. Mais je sentais bien qu'au fond de moi, j'avais besoin de créer quelque chose, tu vois. On a une créativité en nous, les développeurs, sauf que notre manière de l'exprimer, c'est pas à travers de la peinture, c'est pas à travers de la musique. On la sort sur du code, en fait. Et ce code produit quelque chose derrière. Et parfois, c'est très beau. Parfois, c'est extrêmement élégant. Alors, il faut être... C'est un peu comme de l'art abstrait, parfois, pour les gens. C'est-à-dire que je vais m'extasier sur un morceau de code qu'a écrit Christophe, alors que la majorité des gens vont dire « Ouais, mais c'est quoi ? C'est du texte ? C'est quoi ?» Alors que moi, je vais dire « Ah ouais, c'est magnifique, cette loupe, comment tu l'as mise là ?» Et tu vois, il y a une forme d'art un petit peu compliquée à suivre, mais quand ça marche bien, quand c'est efficace, c'est la manière dont on exprime notre créativité.
Tu es sur la même longueur d'onde, Christophe ? Tu vois le code comme une expression, comme le dit David, artistique d'une certaine manière ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec David, je dessine aussi très mal. Mais, oui, il y a un côté très créatif derrière ça. Il y a plusieurs choses créatives, je pense. Il y a le fait de traduire un besoin d'un utilisateur en autre chose. Donc il y a cette transmission là pour créer un logiciel, créer un programme, créer un site web à partir d'un besoin exprimé par quelqu'un d'autre. Il y a cette transmission là et il y a aussi effectivement l'admiration du travail bien fait, de la beauté du code qui est écrit. Il y a ces deux facettes également. D'ailleurs, tout à l'heure, un peu pour anecdote, ce matin, je me suis extasié devant un super sélecteur CSS que j'ai fait pour répondre à une problématique technique où on aurait pu répondre de 10 façons différentes, mais c'était pour moi la plus élégante et la plus adaptée pour faire ça, et j'en suis toujours très content d'ailleurs, très satisfait.
Donc,
encore
David
maintenant.
David s'extasie de ton code à toi, Christophe, et toi, Christophe, tu t'extasies sur ton propre code, sur ce sélecteur CSS. C'est parfait, c'est bien.
C'est un peu égocentré. Non, mais ça...
Non, mais je comprends. Mais donc, c'est marrant parce que je crois qu'on a généralement l'image de développeurs qui sont, dans la culture populaire, c'est forcément un petit peu caricatural, les grosses lunettes hyper nerd qui tapent sur son clavier à longueur de journée. On n'imagine pas une intention ou une tendance artistique là-dessus.
Ouais, il y a une vraie image populaire, excusez-moi l'expression, de merde, qui vient du cinéma, c'est horrible. À chaque fois que je vois un film avec un ordinateur et un gars qui tape V-I-R-U-S, entrée, et t'as l'ordinateur qui tombe, tu fais « Oh là là, le film va être fantastique !» Mais effectivement, alors pas tout le monde, bien sûr, c'est comme partout, il y a des mauvais artistes, il y a des mauvais peintres, il y a des très bons peintres, il y a des Da Vinci, voilà. Ben, c'est pareil dans le développement. Il y a des John Carmack, tu vois, des gens qui ont autre chose, qui savent faire quelque chose que les autres n'ont pas vu. Ils ont vu la lumière différemment. Donc, il y a vraiment une notion d'art, oui.
D'accord.
C'est sûr.
Et donc, je reviens à ma question du quotidien vraiment du développeur. Vous passez les journées devant l'écran avec le clavier. C'est vraiment ça le quotidien du développeur ou il y a d'autres choses ?
Je pense que ça dépend des métiers dans le développement. Moi, je gère un projet open source. BabylonJS est un projet open source. Donc, je passe une grosse partie de ma journée en fait, à discuter plutôt avec les utilisateurs. Donc, pour voir, les aider déjà. Donc, ils essayent de se servir du moteur 3D, les aider, comprendre leurs besoins. Puis c'est beaucoup de social en fait la partie open source et c'est pour ça qu'on est plusieurs d'ailleurs et la journée en fait je vais développer peut-être que la moitié du temps et quand je développe en fait on a comme c'est open source on est sur github.com donc les utilisateurs viennent et nous disent voilà ça marche pas donc on va le fixer quand c'est un bug et sinon ils disent moi j'aimerais bien faire ça et dans ce cas-là on discute avec eux pour le faire donc en gros la liste des tâches dans le cadre d'un projet open source elle vient souvent de la communauté en fait.
Et donc, tu as une liste de choses que tu dois faire, voilà. Que tu veux faire, soit par demande de la communauté, soit parce qu'il faut corriger des problèmes. Et à ce moment-là, tu rentres dans le code.
Oui.
Ça représente, j'imagine que chaque projet est différent, une petite app sur iPhone ou Android, c'est pas très long et tu peux t'y retrouver. Mais il y a des projets pharaoniques comme Windows ou, j'en sais rien, moi, les algorithmes de Google qui tournent sur leur serveur où on pourrait penser à mille choses.
Ouais.
Qui font des kilomètres et des kilomètres de code.
Oui, c'est des millions de lignes de code, oui.
Ouais.
Millions.
Mais comment est-ce que... je disais pharaonesse, c'est vraiment des sortes de pyramides. Comment on s'y retrouve, quoi? Comment est-ce qu'on peut... Si tu sais qu'il y a un bug quelque part, je pense aux jeux aussi, moi je joue beaucoup, il y a des jeux qui sont vraiment tellement ambitieux qu'ils semblent impossibles à contenir dans la tête, je veux dire même le concept de tous les éléments qu'il faut pour que ça fonctionne ensemble. Comment on fait pour trouver l'endroit où c'est buggé? Comment c'est organisé tout ça? Comment est-ce qu'un développeur à qui on dit « corrige ce bug » va s'y retrouver? Et est-ce que parfois il ne s'y retrouve pas, quoi?
Alors je te donnerai une analogie si tu veux bien. En fait, si tu étais un taxi à New York dans les années 20 et que je te prends comme taxi et que je te dis « taxi, amenez-moi rue machin », eh bien, la plupart du temps, le taxi y serait arrivé. Alors que New York, c'est juste un infâme... quadrillage de centaines de milliers de rues. Et en fait, ça fonctionne exactement pareil pour un développement. Dans un développement, on a organisé une carte en fait, des fonctionnalités qui sont dans des répertoires. Et dans ces répertoires, il y a des fichiers. D'accord ? Et donc, typiquement, le matin, tu arrives et ta tâche du jour, c'est de corriger le fait que, je sais pas, quand je clique avec la souris à cet endroit-là, le bouton est rouge alors qu'il devrait être vert. Eh bien, en fait, tu vas donc, vu que là, c'est sur l'interface, tu vas aller dans le répertoire, par exemple, interface, si le projet est organisé comme ça. Et puis après, tu vas aller dans la page en question, genre, c'est la page achetée. Donc, tu vas aller dans la gestion de la page achetée. Puis, dans la page achetée, tu vas avoir la définition de ta page où il y a le bouton et tu vas te retrouver avec le code de ton bouton. Tu vas suivre une carte, en fait. Mmh. Alors, la carte, là, elle n'est pas comme sur une carte papier, elle est sous la forme de répertoire. Certains projets sont organisés en plusieurs projets, en fait, où tu as plusieurs, en fait, entre guillemets, exécutables qui communiquent entre eux. Dans le cas de Babylon.js, par exemple, nous, on a 17 modules qui communiquent entre eux. Donc, en fonction du fait que tu es sur le module de physique ou sur le module de rendu ou sur le module de collision ou de particules, tu vas déjà avoir un plus petit sous-ensemble de ton code. Et après, on va te dire, les particules, quand elles interagissent avec le bord de l'écran, ça ne marche pas. Donc, tu vas aller dans la partie interaction des particules. Tu vois ce que je veux dire? La description de ton problème va te donner une
hiérarchie, quoi.
Exactement.
Mais est-ce que du coup c'est la même chose dans un, si on veut aller encore plus loin dans le domaine pharaonique, un truc comme Windows ou comme Linux d'ailleurs, qui est développé en open source, qui est travaillé sur lequel travaillent des gens qui sont aux quatre coins du monde. Pareil, tu vas avoir un gros répertoire, genre ça c'est Windows, et puis il y a des sous-répertoires et tu as le moteur communication réseau, le moteur graphique, moteur machin.
C'est ça. D'accord. Tout à fait.
Et tu sais, en fait, c'est des modules.
Ouais. C'est toi, à l'origine, il y a un monsieur qu'on appelle, un monsieur ou une dame d'ailleurs, qu'on appelle l'architecte ou les architectes qui vont architecturer le projet, comme une maison. Ils vont dire, mais là il va y avoir les murs, là, il va y avoir le sol, etc.
Ouais. Et donc là, ils disent. Tel module, il peut recevoir tel type d'instruction et envoyer tel type de données. Et tel module, il va faire ça. Et donc, on les développe ensuite en parallèle. Et si ça a été bien architecturé, au final, ça fonctionne parce que chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire et les données qu'il doit envoyer.
Et des fois, c'est bien architecturé, et puis des fois, ça l'est pas. Et t'arrives, t'as un gros gloubi-boulga, tu fais « Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu vois, c'est de la peinture artistique aussi à ce moment-là. Pourquoi ça, c'est là ? Mais tu vois, Windows, typiquement, c'est des DLL. Hein. T'as Win32 DLL, NT Kernel, etc.
Ah, explique ce que c'est que les DLL, parce que...
Ouais, c'est Dynamic Load Libraries.
Libraries, j'avais oublié Load, ouais, ok.
Et c'est en fait, c'est une. Au tout début, comme on n'avait pas beaucoup de mémoire, en fait, ça marche toujours aujourd'hui en même temps. On charge partout. Typiquement, si tu ne fais pas de réseau, on ne te charge pas le réseau, par exemple. Ou si tu ne fais pas d'impression, on ne va pas te charger le module d'impression. Donc, l'idée de l'architecture d'origine a été de dire on va découper des petits modules comme ça et on les loadera dynamiquement. Et donc, en fait, Windows a été architecturé autour de segments de code comme ça. Alors, il y a une base qui est le core qui se charge quand tu bootes, qui va gérer la mémoire, l'accès au disque, etc. Vraiment, les concepts vitaux d'un OS. Et puis après, ils vont loader des DLL en fonction de ça. Et du coup, tu as des développeurs, mais là, c'est des équipes entières. Hein. C'est peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plusieurs milliers de personnes. Et donc, tu as 50 personnes qui ont travaillé sur le bouton démarrer, 30 sur la gestion de la batterie, 400 sur la gestion de la mémoire, etc.
D'accord.
Et ils ont des sous-projets, en fait. Quand tu dis, je vais travailler dans Windows, tu ne travailles pas dans Windows, en fait. Tu travailles dans un petit module de Windows.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'au final, tout se coalesce et fonctionne. Ouais. c'est des choses qui sont difficiles à concevoir. Et bon, on parle de Windows, mais tous les projets, peut-être que Windows est l'un des plus ambitieux, mais tous les projets informatiques fonctionnent un petit peu de la même manière.
Et moi, je suis relativement toujours émerveillé de voir que quand j'allume mon ordinateur, que j'appuie sur un bouton et que j'ouvre une fenêtre, je sais ce qui s'est passé derrière. Je suis abasourdi de la capacité de l'humanité à avoir produit ça. C'est quelque chose dont on devrait être fier. Effectivement, les gens râlent. Moi, le premier, j'appuie sur un bouton, mon ordinateur redémarre, j'ai envie de le faire passer par la fenêtre. Mais après, je relativise parce qu'effectivement, c'est un amoncellement de compétences de l'humanité qui nous permet de faire des choses incroyables aujourd'hui. Quoi. Ouais. Regardez un processeur, un petit carré de sable cuit, quoi. C'est un truc de fou quand même.
Non, on est d'accord, on est d'accord. Quand on parle vraiment de projet pharaonique, je crois que le terme n'est pas usurpé.
Non, tout à fait.
J'aimerais revenir à des considérations un petit peu plus concrètes et vous demander à tous les deux, peut-être donner la parole à Christophe, quels sont les trucs qui vous frustrent dans les relations, je ne sais pas, avec les clients ou avec les fournisseurs ou des trucs où les gens ne comprennent pas en fait les implications de votre métier ou même de ce qu'ils demandent. Je crois que tous les métiers ont ce genre de moment où il y a un client ou quelqu'un qui demande un truc et qui ne se rend pas du tout compte que en fait, ce n'est pas possible ou ça va être des dizaines d'heures de boulot. Ou... Est-ce que vous avez des exemples, sans citer les noms bien sûr, mais de moments où vous vous êtes dit « Non mais ils sont malades là ». Les trucs qui reviennent souvent, les choses, oui, bah, que les clients ou les partenaires ne comprennent pas. Peut-être, Christophe, est-ce que tu as une idée ou pas du tout, tout se passe toujours bien ?
Non, ça se passe rarement bien. Il y a des cas où on arrive à organiser des projets pour que ça se passe bien dans une démarche mais commune, où tout le monde est aligné dès le départ. Mais non, en général, il y a des problèmes de compréhension parce qu'on ne parle pas la même langue malgré tout. Je ne parle pas du langage, mais nous, on est plutôt du côté technique dans la réalisation et eux sont dans leur domaine métier qui les concerne. Et eux sont frustrés. En fait, je pense que la base du problème, c'est d'arriver à se mettre dans la peau de l'autre, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'à la fois le donneur d'ordre, qui lui, dans son métier, si je prends l'exemple du BTP, il est sur son chantier, il a un problème parce que voilà, il n'arrive pas à faire tourner sa bétonnière. Mais et toi, côté développeur, d'essayer de comprendre en fait sa frustration, essayer de comprendre ce dont il a besoin, au-delà de juste l'aspect technique de ce que tu as fait. C'est mon code est super beau, tu devrais l'apprécier. Enfin, voyons. Je pense que les problèmes partent de là, d'arriver à se comprendre l'un l'autre. Et dans la compréhension, ça passe par de la communication. Et donc la communication, c'est bien transmettre et bien écouter.
Je t'interromps une seconde, parce que ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu penses qu'il y a des développeurs qui codent pour eux, en fait, qui codent pour l'amour de l'art et qui font le truc pour eux et qui se disent bah, « moi, c'est super bien » et qui ne pensent pas forcément aux besoins de l'utilisateur? Et bah, c'est forcément une faute, mais d'une certaine manière, c'est artistique, donc c'est beau aussi. Mais est-ce que ça existe, ce genre de cas ? Est-ce que c'est une compétence qu'il faut acquérir quand on est développeur, de se dire « oui, je ne le fais pas pour moi, ce boulot, je le fais pour quelqu'un qui va devoir utiliser mon truc et il faut qu'il puisse l'utiliser » ou c'est pas, ou je m'égare ?
Il y en a, enfin, il y a... Tu peux faire du code purement créatif, ça existe. Donc, mais là, c'est juste des trucs que tu vas publier ou que tu vas mettre à disposition ou juste pour toi. Mais à partir du moment où tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu dois forcément quelque part essayer de comprendre comment il va s'en servir, ce dont il a besoin. Enfin, ça c'est mon point de vue.
Et oui, c'est évident, mais je veux dire, il y a des gens qui ont du mal à faire ça, en fait, qui ont cette fierté de développeur.
Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans ce métier-là, et que c'est une vraie valeur d'arriver à se détacher de ça pour essayer de faire le pas vers l'utilisateur, essayer de comprendre vraiment ce dont il a besoin et comment il va s'en servir. Et puis, remettre ça en question, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fait, vérifier qu'effectivement les assumptions que tu as faites sont réelles, que dans la réalité, il se passe vraiment ce que tu avais prévu, ou qu'au final, non, pas du tout, en fait, il t'avait dit quelque chose, mais ce n'était pas ça, et tu constates quelque chose différemment, et te remettre en question le besoin, la technique, et puis avancer comme ça de manière itérative pour améliorer ce que tu fais, le programme, tout ça. Mmh.
Mais pour revenir, moi je veux que tu me balances des trucs buzzy, tu vois, des mini-scandales, des trucs qu'est-ce que... Non, pas forcément buzzy, mais pour revenir à la question des trucs qui t'irritent chez les clients qui ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire le métier de développeur, je te demande, bon, d'une part parce que je suis sûr que ça sera marrant, mais aussi parce que je suis sûr que certains de ces comportements se retrouveraient chez les auditeurs qui ne comprennent pas forcément ce que ça implique. Donc, tu vois, ces a priori sur la manière dont se passe le développement... On se dit, bon, bah, alors là, tu fais ça, ça et ça, et ça, c'est bon, allez, on ne va pas y passer la nuit. En fait, toi, tu te dis, si, c'est pas comme ça que ça marche, garçon. Ouais, je ne sais pas s'il y a des exemples.
Bon, moi, j'en ai un peut-être qui est un peu triste. Je ne sais pas si je vais péter l'ambiance ou pas.
Ok. Vas-y,
en fait,
vas-y.
Triste, hein. Par rapport, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, Babylon G, c'est un projet open source. Ça veut dire que n'importe qui peut venir y contribuer, ce qui arrive rarement, et s'en servir, ce qui arrive souvent. Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs en fait, qui disent, tiens, j'ai besoin de faire un peu de 3D, je vais faire un jeu sur Facebook, hop, je prends le moteur, je m'en sers chez moi. Donc, on a beaucoup d'utilisateurs, en fait. Et on a donc créé une communauté autour de tout ça. Donc, la communauté, en fait, c'est des gens qui viennent se servir du code que nous produisons. Et récemment, certaines de ces personnes se sont aperçues que nous travaillions pour Microsoft. C'est-à-dire que depuis le début, le moteur existe depuis 7 ans, en fait. Je l'avais commencé à titre personnel, en fait. Je n'avais pas précisé ça dans la petite histoire. C'était un projet, un pet project que j'avais démarré et qui après a été repris par Microsoft. Et du coup, la communauté, depuis 7 ans, était en place. Et puis, il y avait des gens qui étaient là depuis 7 ans. Et depuis, donc, il y a 3 mois de ça, un des gars qui était très actif sur la communauté s'est aperçu que nous travaillions pour Microsoft. Et à partir de là, il a décidé de nous juger, en fait, et du coup, d'oublier complètement le fait qu'on était développeur pour faire le vrai utilisateur relou, en fait. Mmh. Et donc, tous les jours, parce que c'était Microsoft qui était derrière, il décidait de faire des demandes de fonctionnalités ou de dire que certaines choses n'allaient pas, en fait. Et ce comportement-là, moi, je le vois souvent, en fait, d'oublier qu'il y a des humains, en fait, qui sont des développeurs et de faire des demandes extravagantes de pour toi, ça va être facile parce que maintenant, alors, parce que dans l'histoire, là, c'était vu que vous travaillez pour Microsoft, tout est facile pour vous, en fait. C'était ça le thème. Et du coup, en fait, les gens oublient que nous sommes des développeurs. On est des gens, en fait. On a une journée de travail normale. On développe des choses. Là, dans le cadre de l'open source, ça a été vraiment exacerbé. Je le vois également, je développe des petites apps à titre personnel et des gens viennent te demander des choses en te disant, ça va, ton app est gratuite. Elle est... Mais bon, ça serait bien si le fond était en bleu, ça va aller vite pour toi. Mais en fait, non. Enfin, même si ça va vite pour moi, c'est pas aussi simple. Quoi. Les développeurs, ils ont aussi une vision, comme le disait Christophe, qui peut s'aligner avec le besoin de l'utilisateur, mais aussi ça peut être une vision créatrice où tu as décidé que ta peinture, le fond était bleu. Voilà, c'est comme ça. Mmh. Et donc, il y a fréquemment cet oubli, en fait, du fait qu'il y a des hommes, des gens, derrière les développeurs.
Et des femmes.
Et des femmes, ouais. Hommes avec un grand H.
Très bien. Mais du coup, ça c'est un thème que dont j'ai l'impression qu'il revient, l'impression que ça va aller vite.
Quasiment tout le temps.
C'est pareil.
Que tu sois avec des clients qui te payent un peu comme dans le cas de Christophe où tu vas développer pour eux, ou que tu sois avec des clients qui utilisent ton application de manière gratuite, il y a un oubli constant du fait que c'est du temps passé. T'irais pas voir un fabricant de meubles en lui disant ah, c'est bon, tu me fais un meuble Louis XVI, là t'en as pour 2 heures, c'est bon, réglé, tu fais ça tous les jours des meubles. Ouais, mais là c'est pareil en fait. Quand quelqu'un
et tu me rajoutes un cinquième pied bleu, s'il te plaît.
Oui, et après, c'est la commande. C'est-à-dire qu'à la livraison, tu amènes le produit, tu lui dis voilà, je t'ai fait ton meuble Louis XVI. Ah ouais, mais peut-être que finalement j'aurais préféré du surcotage en cuir sur le fauteuil. Ouais, mais c'est trop tard, monsieur.
Ça, j'imagine que la plupart des gens qui gèrent des projets avec des clients vont se retrouver et pas que les développeurs.
Ça reste acceptable jusqu'à une certaine limite. Tu vois, et comme je parlais des applications gratuites, moi je considère que je fais une application gratuite que je développe et que je mets sur iOS et Android. Tu peux me demander une fonctionnalité. Un, tu as intérêt à être méga poli quand tu me la demandes. Et deux, c'est pas sûr que je le fasse. C'est pas de l'esclavage moderne en fait.
C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce que ça implique, non. Encore une fois. Est-ce que vous pourriez nous donner un ordre d'idées pour le temps que ça prend de développer une application simple? Je ne sais pas si on peut prendre un exemple, mais je ne sais pas. Par exemple, je vais te poser une question précise, vous poser à tous les deux. Moi, il y a une application que j'utilise beaucoup, qui est une application de lecture de flux RSS sur iOS, qui s'appelle Reader, qui est développée par une personne, je crois, c'est un Italien, peut-être qu'ils sont un peu plus, mais en tout cas, le développeur principal, c'est un Italien. Super application, c'est Reader, R-E-E-D-E-R. Il sort une nouvelle version, peut-être tous les 2 ans, qu'il faut repayer, que je paye avec plaisir. Mais c'est juste une application de lecteur de flux RSS avec des fonctionnalités d'interface qui sont jolies, mais enfin, c'est pas un truc hyper complexe, on va dire. Peut-être que vous la connaissez pas, donc je vais pas vous demander...
Déjà, tu parles avec un jugement de valeur. Tu parles avec un jugement de valeur sur le travail qu'il a fait, sans vraiment savoir la complexité qu'il a eu derrière. Ça peut être une complexité de conception de l'application, c'est-à-dire travailler ce qu'il souhaite faire et ce qu'il souhaite proposer, et ça peut être une complexité technique, logique de concevoir, réaliser vraiment ça après derrière.
J'essaye de la situer sur une échelle d'application complexe, tu vois. Développer un truc comme, je ne sais pas, Uber avec toute l'infrastructure technique qu'il y a derrière et puis gérer les demandes des différents pays et les connexions entre les apps, le moteur réseau, etc. Je me dis, ça, c'est un truc qui est quand même relativement complexe. Un truc comme Excel sur mobile qui a plein de formules et de machins qui doivent être gérés, c'est une application comme un lecteur de flux RSS. Je me dis que bon, c'est pas l'application la plus simple du monde, mais c'est plus simple que les autres auxquelles je pense, tu vois. C'est dans ce sens-là que je le disais.
Bah, une application comme ça, je l'ai sous les yeux là, elle existe sur Mac et sur iOS déjà. Mm-hmm. Donc il y a un petit peu de travail là-dessus. Et puis lire un flux RSS en soi, c'est pas compliqué, mais après il y a toute la gestion des erreurs de réseau, il y a la gestion du joli affichage, de ce que tu as lu, de ce que tu n'as pas lu, de la synchronisation entre les devices, le fait qu'ils te proposent également des exportations et tout ça de tes flux. Tu vois, c'est quand même à plein temps, tu vois, je dirais peut-être 2 mois de travail si tu bosses tous les jours dessus.
2 mois de travail à plein temps pour développer cette application. Mmh. Ok.
Ouais, c'est 50 de jours, ça fait en
ouais,
version projet, c'est ça. Ouais.
C'est ça. Et le truc, c'est qu'après, le monsieur en question, ils ne doivent pas faire ça pour en vivre, le pauvre monsieur. Ils doivent faire ça le soir quand il rentre, qu'il est fatigué, ou le week-end, alors qu'il voudrait passer du temps avec ses enfants. Et ça ajoute énormément au coût émotionnel que tu as à développer, en fait.
Ah, moi, je pensais qu'il en vivait.
Peut-être. Alors non, je ne sais pas. J'ai pas l'impression chaud, hein. Quand je vois son site comme ça quand même qu'il en dirait, mais
d'accord.
Ça me paraît compliqué. Mais peut-être
une appli mobile,
une application à succès, mais bon. Moi, je développe 2 applications là, sur iOS Android, une pour gérer des collections en général et une pour gérer, parce que je suis un grand malade de cartes Magic, donc j'ai une application qui gère des cartes Magic je la développe sur mon temps perso, mais je pourrais pas en vivre, loin de là.
Ouais.
Alors après, c'est peut-être moins successful que Reader, j'imagine. Mais
moi, je crois qu'elle se vend pas mal. Mais moi, je lui souhaite qu'il puisse en vivre, effectivement. Mais...
J'adorerais qu'on vive dans un monde où quelqu'un puisse vivre de la passion de son app. Ils disent, voilà, moi, c'est ça que j'aimerais faire. Hélas.
Mais donc, sans forcément parler de cette application spécifiquement, tu penses que développer une app comme ça et puis la vendre à 5$, c'est le prix qu'elle coûte sur iOS, tu penses qu'un développeur ne peut pas en vivre, a priori?
Difficilement. Je suis en train de regarder combien il a download le monsieur, mais il faut en vendre beaucoup quand même.
Ouais. Et du coup.
Il a 288 étoiles, tu vois. C'est, je ne sais pas combien ça fait de download, mais ce n'est pas des caisses, quoi.
Mmh. D'accord.
Je vais l'acheter, tu vois, juste pour le soutenir.
Bah, si vous cherchez un lecteur de flux RSS, franchement, Reader, c'est assez magnifique. Et c'est Silvio Rizzi, qui en plus, je lui avais envoyé un mail ou deux à un moment, et il m'avait répondu directement. Il était très réactif, et j'adore son application. J'ai acheté toutes les versions. C'est avec ça que je fais la veille de l'émission, d'ailleurs. Elle est vraiment très bonne. Mais oui, donc vous pensez que ça, c'est difficile d'en vivre. Est-ce que vous avez d'autres exemples de relations avec des clients où il y a un truc qui vous énerve au-delà du fait qu'ils pensent que tout peut se faire en un claquement de doigts? Peut-être, Christophe, je ne sais pas si tu as eu des...
Oui, il y a ça c'est évident, ça va être facile pour vous, c'est pas grand chose à faire ou sans vraiment comprendre toute la problématique qui se cache derrière, c'est évident. Et après, il y a peut-être un autre truc contre lequel je me bats régulièrement, c'est Excel. Alors, c'est pas contre David ou contre Microsoft en particulier, mais c'est...
J'ai l'habitude, t'inquiète pas.
Dans le domaine de l'informatique, plus de gestion, les gens ont l'habitude de travailler dans Excel beaucoup, et souvent ils ont commencé par là. Souvent, tu vois, les entreprises ne sont pas forcément équipées d'un logiciel en particulier, et du coup ont conçu quelque chose sur Excel. Donc ils vont toujours faire un parallèle avec Excel et avec ce qu'eux savent faire dans Excel, puisqu'au final, ce que tu peux faire dans Excel, ça peut aller très loin, et tu peux commencer à toucher des éléments de programmation vraiment dedans. Et donc les gens vont partir avec cet a priori en disant, moi je sais le faire dans Excel, ou encore pire, c'est-à-dire que tu as une solution, ils te disent, c'est pas compliqué, dans votre logiciel, vous faites un export dans Excel, et puis moi je vais le faire. Parce que ça sera plus facile, parce que je sais ce que j'ai envie de faire, parce que ça coûte trop cher, ça me plaît pas, ou parce que vous êtes mauvais, des trucs comme ça, avec des jugements de valeur encore. Donc je me bats contre ça, contre ces exports dans Excel. En fait, ce qui se cache derrière ça, c'est que, après l'anecdote croustillante, c'est que tu vas
perdre des fonctionnalités. C'est-à-dire que tu vas perdre des cas d'usage et du coup, tu ne vas pas répondre comme il faut aux utilisateurs. Alors que tu pourrais en fait enrichir ta solution en disant qu'est-ce que vous allez faire dans Excel ? À quoi ça vous sert ? Comment vous allez le traiter ? Et du coup, plutôt traiter ça dans ta solution, toi, avec ta vision peut-être, mais au moins avec une vraie solution adaptée et pas un outil à tout faire ou un bac à sable dans lequel les utilisateurs vont pouvoir s'amuser.
D'accord.
Oui, c'est Excel, un peu comme les artistes.
Ouais,
encore
vas-y.
Une fois, comme les artistes, où on veut te payer en fame. Excusez-moi, je cherche mes mots. On dirait Jean-Claude Van Damme.
En célébrité, en exposure.
Oui. Attends, mais je vais me servir de ton app. Pourquoi est-ce que je la paierai ? Je la montrerai à mes amis. Oui, bien sûr. Mais moi, tu me montreras un bout de pain aussi, comme ça, je pourrai le manger. Tu sais, comme il n'y a pas de sens commun sur le travail à effectuer, ça, ils ont l'impression que c'est simple. Et du coup, effectivement, si je fais de la pub à ton app, je n'ai pas besoin de la payer. Ben oui, bien sûr.
Ouais. C'est marrant, je suis assez surpris de voir le nombre de parallèles qu'il y a avec vraiment le travail des artistes au final, parce qu'on retrouve ce genre de problématique avec les gens qui travaillent sur le net dans des cadres artistiques, des gens qui font des webcomics ou des illustrations, où on leur dit aussi ouais, c'est bon, attends, je vais prendre tes illustrations, je vais les montrer sur mes vidéos YouTube ou ce genre de trucs.
Exactement, voilà, tout à fait.
je sais pas, le troisième ou quatrième parallèle qu'on fait avec le travail artistique, quoi. Donc, je pensais pas qu'on irait dans cette direction, en fait, mais il y a vraiment une vision artistique du développement qui est assez intéressante.
Le truc aussi, tu sais combien de fois on voit sur Twitter ou Facebook des gens qui disent « j'ai une idée, je voudrais faire j'ai une idée de start-up de fou, il me faut un développeur la plupart du temps ». Et quand on connecte les développeurs avec ces gens-là, ils te disent « ouais, je te paierai quand tu auras développé le truc ». Mais en fait, je vais développer toute ton application et à la fin, toi, tu as fait quoi ? Toi, tu es venu, tu as une idée. Et c'est souvent le cas, quoi.
Ouais.
Je te donnerai des stocks.
Ouais, le travail d'exécutant est comme ça, c'est vrai. Il y a une vidéo que j'aimerais mettre en avant, alors du coup tu pourras la mettre peut-être en lien sur la description de l'épisode, c'est The Expert sur YouTube, c'est en anglais, mais c'est une vidéo typique qui explique un petit peu une démarche entre un client et une entreprise qui va souhaiter réaliser le projet. Et en gros, tu as le client qui va lui demander, ça part du voilà, j'ai besoin que tu me dessines cette ligne rouge. Et donc,
je pense que tout le monde l'a vu celle-là.
Voilà, tu as le commercial, le chef de projet et l'expert, donc qui est plutôt le développeur quelque part. Et après, donc, il commence à creuser ça et puis on va lui demander de rajouter. Alors, j'ai vu 7 lignes rouges, mais il faut qu'elles soient toutes perpendiculaires entre elles.
Ouais.
Voilà. Et certaines doivent être vertes et d'autres transparentes. Tu vois, ça part comme ça. Et bien, ça, c'est vrai au quotidien. Alors, pas avec des lignes rouges, mais avec d'autres besoins comme ça. Et puis, tu creuses, puis ça part un peu dans tous les sens. Et il faut arriver à défricher un peu le besoin, essayer de faire converger les trucs et essayer de comprendre surtout les gens qui font pareil d'un autre métier, d'un autre langage.
Je pense que si vous cherchez The Expert sur YouTube, c'est très simple. Il y a 22 millions de vues. C'est une vidéo qui a 5 ans de Loris Bennertz. Et effectivement, je m'en souviens, ils ont fait visiblement toute une série. Mais la première apparaîtra en premier. Et c'est une vidéo qui a fait le tour du monde à l'époque et qui, je crois, est assez emblématique du travail des experts de tous les domaines, pas que des développeurs. Ça s'applique à un petit peu tout le monde, quoi.
Bien sûr. Ouais.
Écoutez, je pense qu'on a... on n'a pas fait le tour, mais on a quand même eu quelques images du travail des développeurs. Est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez dire aux auditeurs, aux gens qui ne connaissent pas forcément ce métier ? Je suis sûr que plein de développeurs qui nous écoutent disent « Ah ouais, non mais il y a ça dont je voudrais parler, ça machin. » Mais est-ce que vous auriez des petits messages à faire passer ou d'autres choses qu'on n'a pas évoquées que vous voudriez mentionner avant qu'on se quitte ? David, vas-y, si tu as quelque chose.
Moi, je voudrais juste dire deux choses. Si vous avez envie de devenir développeur, faites-vous plaisir. C'est un métier magnifique. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est si vous n'êtes pas des développeurs, considérez-les d'abord comme des humains qui travaillent et qui font un travail pas forcément facile. Voilà, c'est mes deux appels à l'aide.
Je crois que cet appel pourrait s'appliquer en fait à pas que aux développeurs. Hein. Ça pourrait
s'appliquer
à un petit peu n'importe qui avec qui on interagit d'une manière ou d'une autre.
Tous les métiers créatifs. Ouais. Où on ne voit pas vraiment le travail jusqu'au moment fini. Tu vois, même un peintre, une fois qu'il a peint, bon, mais voilà, c'est un papier avec des couleurs, merci. Tu n'as pas non plus inventé la poudre, tu vois.
Ouais, et puis un autre aspect qui revient souvent quand on parle du travail des artistes et de leur prix, en tout cas de leur coût sur Internet, c'est l'idée que bah, ça va te prendre 5 minutes à faire ce dessin, donc pourquoi tu me... mais ce que tu payes, c'est pas les 5 minutes que, ça va passer, que tu vas passer à le faire, ou même les 2 heures que tu vas passer à le faire, ou les 3 jours. Ce que tu payes, c'est le savoir-faire qui a été acquis au cours de d'années ou de dizaines d'années précédentes. C'est ça que tu payes, c'est pas...
Merci Patrick, merci.
C'est exactement ça, merci Patrick.
Ça fait plaisir. Mais tu sais, tu as une mouvance actuelle où tu as beaucoup, tu as de plus en plus en fait, de développeurs qui se mettent en freelance et qui s'inscrivent dans une démarche d'artisanat, tu vois, on parle de software craftsmanship, et c'est ça, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant la qualité et le travail bien fait, la beauté du travail, un peu comme tu pourrais avoir un artisan du bâtiment, un charpentier qui fait une belle charpente. Et du coup, tu as cette mouvance-là, et ça rejoint aussi cet aspect artistique, mais du coup, ils portent ça en mettant en avant, ils communiquent énormément hein, auprès de l'extérieur, aussi auprès de la communauté sur le...
Moi, je fais les choses bien, quoi.
Voilà. Et l'amour pour cette qualité-là.
Si tu construis ta maison, aujourd'hui, tu as un artisan qui te dit « Moi, je vais faire ça bien, peut-être pas aussi vite que l'autre, mais ça va être nickel, ça va tenir. » C'est un peu pareil dans le développement. Eux, ils disent « Moi, je vais faire ça bien. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais je ferai ça bien. »
Très intéressant. Christophe, quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on se quitte ?
Oui, effectivement, le développement, moi aussi, si vous avez envie d'essayer, allez-y, il y a énormément de tutos, vous pouvez commencer par tout et n'importe quoi. Ce qui est important, c'est d'être curieux, de ne pas hésiter à essayer, quitte à se planter, c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on apprend. Et après, il y a surtout, là c'est plus un message côté communauté de développement, c'est arrêter les guerres de chapelle, c'est-à-dire que essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous faites. Moi, j'avais des anecdotes sur les batailles entre les espaces et les tables dans le code, tu vois.
Les espaces et les tables, d'accord.
Oui, ouais,
mais c'est super, super, super profond comme gars. C'est incroyable.
C'est-à-dire que quand on passe dans une fonction et qu'on doit tabuler jusqu'au bout pour savoir que c'est la même fonction.
Tu mets 4 espaces.
Ouais, d'accord.
Deux. Voilà, ou 2. Hein, il y a ça aussi. Non, mais tu vois, la série Silicon Valley, d'ailleurs, ils ont fait des blagues par rapport à ça. Ils sont assez justes d'ailleurs là-dessus. Mais tu as la même chose sur les technologies, sur les frameworks, enfin, à tout niveau. Et en fait, on perd énormément d'énergie là-dessus, alors qu'en fait, c'est pas là, c'est le plus important, en fait. Et ce que je dirais, c'est plutôt d'essayer de prendre de la hauteur. Et plutôt qu'apprendre, tu vois, des technologies ou des langages comme ça, essayer d'apprendre plutôt des concepts derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que c'est que de l'asynchrone? Qu'est-ce que c'est que les streams de données? Qu'est-ce que c'est que des composants dans une application web? Des choses comme ça. Plutôt qu'un framework ou un buzzword en particulier.
Je vais du coup rebondir, excusez-moi, on allait se quitter, mais du coup je vais vous poser une nouvelle question à laquelle on peut répondre peut-être rapidement. On a évoqué tout à l'heure l'idée qu'il fallait se former en permanence, et c'est un petit peu, ça rejoint là encore l'idée que les artistes n'ont jamais fini de devenir artistes, mais concrètement, dans le métier de développeur, il faut se former en permanence. Ça prend quelle forme, en fait? Vous devez aller à des séminaires, suivre des cours en ligne tout le temps, parce que quoi, les langages changent, mais un langage, une fois qu'il est établi, est-ce qu'il y a des nouvelles versions du langage? Qu'est-ce que ça veut dire, il faut se former en permanence?
Tu vois, typiquement, JavaScript évolue tous les 12 mois, C-Sharp, pareil, C++, pareil. Il y a des organismes de certification et de standardisation qui sont derrière, qui tous les ans se réunissent, font des nouvelles versions, l'améliorent. C'est jamais fini. Tu ne peux pas t'arrêter, en fait. C'est une course, c'est un marathon, en fait, où tu ne t'arrêtes jamais de courir, en fait. Tu peux t'arrêter de te poser, mais tu vas faire un snapshot de tes connaissances et ne plus les faire évoluer, alors que le monde va évoluer. Il va y avoir des nouveaux processeurs, et tu vois, l'arrivée de l'AR, de la réalité augmentée, par exemple, ça a amené des nouvelles fonctionnalités au niveau des systèmes. L'arrivée de, je sais pas moi, des imprimantes 3D, de plus de résolution, tout ça. À chaque fois que le système évolue, les langages suivent.
Mais là, tu parles de nouveaux appareils, mais même dans les appareils existants, comme on disait tout à l'heure, il y a des nouveaux jeux d'instructions dans les nouveaux processeurs, il y a des nouvelles fonctionnalités dans les nouveaux OS, etc.
Ou des nouvelles manières d'optimiser. Il y a un gars un jour qui a dit, tiens, si on compressait le son comme ça, ça irait mieux. Et puis boum, on a eu MP3, tu vois, alors que jusqu'alors, tout le monde faisait que du son non compressé. Et du coup, ça n'a pas changé la machine.
Même sans être très technique, tu vois, les tailles d'écran qui évoluent, tu passes du 4 tiers au 16 neuvième, voire plus, et du coup, les sites web ne s'adaptent pas en largeur, tu vois, tu as des choses comme ça.
Et donc, il faut fournir les technologies pour suivre, c'est donc CSS3, etc. Donc, toi, en tant que développeur, il faut que tu apprennes cette nouvelle technologie-là. Ça change constamment. Alors, c'est effervescent à un niveau, on ne s'imagine pas. Aujourd'hui, certainement, un des endroits les plus effervescents, c'est la communauté JavaScript, où peut-être tous les jours, il y a des nouveaux frameworks qui sortent de gens qui disent « Tiens, moi, j'ai pensé à ce problème-là, je le fixerai comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ça crée des branches entières de nouveautés à apprendre tous les jours. Peut-être même trop.
Ouais. Si. Mais alors, ouais,
d'accord.
Peut-être même trop, t'es d'accord. Est-ce que, combien de temps est-ce qu'un développeur qui arrête de se former peut rester, on va utiliser un autre anglicisme, relevant, peut rester plus ou moins dans le coup, compétent, combien de temps ça dure en fait?
Bah, ça dépend s'il fait du COBOL, ouais, ou pas.
Exactement, ouais. J'allais avoir le même exemple. S'il fait du COBOL, il est toujours relevant.
Oui, bon, ça dépend des domaines, effectivement. Ça dépend. Mais bon, donc
tu
on ne peut pas donner...
Dans le monde de la 3D, tu ne peux pas t'arrêter. Dans le monde de la 3D, entre NVIDIA, AMD et les événements comme SIGGRAPH, où tous les ans, il y a des nouveaux papiers qui sortent, etc. Les jeux vidéo font la guerre également à l'image et à la qualité. Si ton moteur 3D, il s'arrête de courir, ben, les autres, ils vont lui rouler dessus.
D'accord.
On l'a vu, ouais. Ouais. Je peux faire une blague pour David aussi, c'est si t'es développeur Windows Mobile, t'es plus relevant de Paris. Voilà. Ouais. T'as des technos...
Non mais alors, Windows Mobile, tu vois, on parle d'une échéance de quelques années.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que t'as des cycles, en fait, t'as des choses qui vont continuer à évoluer et t'as des choses qui vont s'arrêter. Donc il faut être capable de passer à autre chose.
Ouais,
donc ça veut dire
qu'il
y a du deuil, mais il y a aussi prendre du recul sur ce que t'as appris pour l'adapter à autre chose. C'est-à-dire que c'est pas qu'un langage, c'est des concepts que t'as appris que tu vas pouvoir adapter sur d'autres langages. Et du coup, pardon, vas-y David.
Non, je t'en prie, non, c'est moi. J'ai l'impression qu'il y a un beat, il y a une sorte de beat tous les 6-12 mois, tu vois. Si tu viens, si tu prends pas ce beat là, c'est un peu comme Crypt of the Necronancer, si tu joues pas sur le même rythme, tu vas perdre en fait. Mais j'ai l'impression, mais ça c'est que moi, qu'il y a une sorte de beat tous les 6 mois, tu vois.
Bon, dernière question, s'il y a des auditeurs qui se disent « Ah ben moi, j'aimerais bien commencer à peut-être même pas forcément à apprendre à coder, mais juste voir un petit peu de quoi il s'agit. Il y a de très nombreux outils. Je sais que certains parlent de Swift Playgrounds, je crois, l'outil d'Apple sur iOS pour justement apprendre. C'est même un petit peu orienté pour les enfants, si je ne m'abuse. Mais c'est un truc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, ce langage spécifique. Mais est-ce qu'il y en a celui-là ou d'autres peut-être auxquels vous pourriez penser vraiment pour donner un petit aperçu de ce que peut être la programmation à des gens que ça intéresserait?
Alors pour avoir un enfant, deux enfants d'ailleurs, dans le premier cycle, tu as Scratch, tu as le langage.
Ouais, je vais dire Scratch aussi.
T'as Scratch qui est un langage visuel de programmation qui permet de... Alors c'est d'abord pensé pour les enfants, mais en fait pour n'importe qui, tu peux aller t'amuser dessus et avec des briques en fait très visuelles qui vont représenter derrière des instructions de code, tu vas pouvoir piloter des éléments de l'écran, donc faire avancer une tortue, faire bouger des trucs, etc. à l'écran.
C'est un truc qui est disponible sur appareil mobile, j'imagine, c'est Scratch ?
C'est disponible sur le navigateur, sur web. Tu as différentes variantes, après tu as peut-être des applis mobiles, effectivement. C'est le MIT qui a mis ça en avant, donc dans la branche Edu, et c'est très ludique, et ça permet de faire les premiers pas. C'est aujourd'hui l'équivalent de l'informatique pour tous, si je fais le parallèle, mais côté apprendre à développer. Tu vois, le coding à l'école, ça va être ça. Et après,
si
tu vas avoir des trucs un peu
si
un
vous
peu
allez,
plus...
Si vous googlez Scratch, vous allez trouver très vite Scratch, scratch.mit.edu, et c'est le centre... principal, ouais.
Après, un niveau juste au-dessus, tu vas retrouver des choses qui sont mises en avant dans les Fab Labs, par exemple, comme les Lego Mindstorm. Donc là, tu es un peu plus dans la robotique. Donc, tu es dans un petit domaine, mais pareil, tu vas pouvoir programmer en fait ton Lego pour qu'il fasse bouger des bras, faire avancer des robots, rouler des choses, etc. Voilà, c'est deux exemples qui me viennent en tête.
D'accord.
Moi, je vous en donne un troisième, mais je fais un petit peu de pub, mais c'est très bien quand même. Ça s'appelle Make Code. Make Code, donc M-A-K-E-C-O-D-E. Et ça va vous permettre de faire des petits jeux, de développer même sur de l'IoT avec des petits devices, avec pareil, même principe que Scratch, vous ne codez pas vraiment, c'est du visuel. Il y en a même dans Minecraft, il y a des petits jeux que vous pouvez faire et c'est fait par Microsoft.
Oui, Minecraft, très bon exemple, ouais, carrément. Ça, pour les enfants aussi, c'est un moyen. On peut programmer dans Minecraft, c'est-à-dire que tu peux faire avec des éléments de jeu, dedans, tu as des éléments de programmation.
Ouais. C'est une machine de Turing complète, hein, Minecraft. Et récemment, alors là, excusez-moi, j'allie les deux, mais c'est trop tentant. Récemment, il a été prouvé que Magic the Gathering est une machine de Turing complète. C'est-à-dire que tu peux développer avec des cartes Magic en utilisant les bonnes cartes, qui peut faire des conditions, etc. Véridique, je vous trouverai l'article.
Très bien, très bien. Ok, bah écoutez, merci à tous les deux d'avoir partagé votre enthousiasme avec nous. On va se quitter, mais avant ça, j'aimerais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Christophe, je sais que tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu peux commencer ?
Oui, très bien. Alors moi, vous pouvez m'en trouver majoritairement sur studiorenegade.fr, sur Twitter, si vous voulez discuter direct, Chris Kamikas. Voilà, et après, mercredi soir, à partir de 20h, sur Twitch, sur Studio Renegade, pour Beats, l'émission qui traite de l'actu tech, et une fois par mois, à peu près, l'émission qui traite de rétro gaming, plutôt avec mon pote Charlie, voilà.
Super, David, est-ce que tu es sur Twitter, toi aussi ?
Oui, je suis sur Twitter, @deltacoche, et je fais également un petit podcast qui s'appelle La Confrérie, et sinon, vous pouvez me retrouver sur babylonjs.com. C'est bon. Gagne-pain.
Super, merci beaucoup David et merci également Christophe, c'était très sympa de vous avoir tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi soutenir l'émission financièrement sur patreon.com/rdvtech, vous le savez bien sûr. Le lien est dans les notes de l'émission, comme les liens Twitter de nos deux invités. Donc n'hésitez pas, si vous appréciez l'émission, patreon.com/rdvtech. Je ne sais pas exactement quand se terminent les vacances, quand cet épisode sera passé par rapport aux vacances, etc. Mais on revient très bientôt avec des épisodes normaux, classiques du Rendez-vous Tech. Donc, ne nous quittez pas, n'allez nulle part. On sera là très, très vite. Et je vous souhaite une bonne fin d'été si vous écoutez ça pendant l'été. Et à très, très vite sur le flux RSS du Rendez-vous Tech. Ciao à tous.